d'emploi. Mode d'emploi.
Bonjour et bienvenue sur Mode d'emploi, l'émission secret de fabrication, comme tous les troisièmes vendredis du mois, 20h30. Alors aujourd'hui, un format un peu particulier parce que Macron nous a couvre-feuté. On n'a pas pu se rendre au studio parce qu'on est au-delà de l'heure. Et donc, on est obligé de faire une émission enregistrée. Mais c'est pas grave, on va pouvoir critiquer durement. Alors, je suspecte fortement Macron, détestant l'émission secret de fabrication et mode d'emploi tout en général, comme il le fait, d'avoir précisément passé cette disposition pour nous nuire. Voilà, je maintiens ce point.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bien dit.
Salut à tous.
Oh. Non, merci Bob de nous accueillir dans ton émission.
Ouais. Pas de problème. Donc on va commencer par parler bien sûr du nouveau confinement. Quand j'ai dit le nouveau confinement, je parle évidemment de la séquence dont on est en train de sortir petit à petit, mais aussi ses suites. Notamment des règles arbitraires comme un nouveau couvre-feu à 20h dont on ne comprend pas l'intérêt. Donc, je voulais votre retour là-dessus sur quel est le réel impact, à votre avis, de ces mesures-là. On nous balance des instructions, des obligations, on nous balance des amendes. Est-ce que ça vous semble significatif à vous?
Je dirais que moi, je trouve ça inadmissible parce qu'en fait, le fait de mettre le couvre-feu à 20h, ça, 20h, c'est juste 2 heures après la fin d'une journée de travail. Donc, les gens ne sont censés que travailler, en fait. Donc, on n'a plus de loisirs, de la façon de se rencontrer. Donc, certes, on ne pouvait pas se rencontrer avant parce qu'il y a des problèmes d'épidémie, mais voilà. Donc, en fait, on est simplement des esclaves au travail, et puis c'est tout, ça s'arrête là, et puis on rentre chez soi, parce que sinon, on va avoir une amende. Et ce qui nous reste, c'est juste éventuellement la lecture ou la télé, enfin bref. Et donc, dans cette histoire de 20 heures, ce qui me gêne le plus, c'est qu'effectivement, tout ce qui concerne la culture, donc je sais qu'on peut aller au musée dans la journée, au théâtre, enfin, on ne peut plus, mais bon, avant, on pouvait y aller dans la journée, mais c'est principalement le soir que les gens sortent pour aller au cinéma, au théâtre, etc. En fermant les salles, on n'a plus du tout de loisirs, donc on est juste des bêtes de somme, et c'est insupportable. D'autant plus que les métros sont toujours ouverts, et les bus aussi, et que c'est dans ces endroits-là que le virus s'active le mieux, quoi. Parce qu'en fait, une salle de spectacle avec 40 personnes dedans, avec deux chaises qui les séparent les uns des autres, ils ont les 1 mètre qu'il faut, ils ont les masques, les comédiens au théâtre, enfin tout ce qui est culturel, en fait, pouvait continuer à exister, parce que là, ils sont dans une merde noire. Et je pense que là, Macron, il a joué la carte uniquement travail, et pas du tout culture, quoi. Donc, c'est un petit peu, à mon avis, le deuxième confinement, comme le premier, me paraît plus proche d'une sorte de dictature sanitaire qu'autre chose, en fait. Parce que d'autres solutions auraient pu être prises, par exemple, dès le départ, au lieu de jeter les masques et les brûler, pour vérifier qu'ensuite, ils étaient quand même corrects et qu'on aurait pu les garder. C'était effectivement de les garder pour éviter d'en acheter d'autres par la suite, donc de créer un trou au niveau budget. Donc, à mon avis, depuis le début, excuse-moi, j'ai fini là-dessus parce que je prends beaucoup la parole, mais depuis le début, ça a été fait, à mon avis, à l'envers. Et on n'est pas les seuls, puisque dans d'autres pays, c'est pareil. Hein, donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais oui.
Non, mais oui, enfin, moi, surtout, c'est le. Effectivement, comme tu l'as dit, Gilles, c'est pire qu'en mai 68. Hein, c'est métro boulot dodo là pour le coup. On est vraiment là-dedans, c'est-à-dire les gens c'est empêcher toute vie sociale. Et en fait, on le voit bien à travers l'interdiction des spectacles, c'est qu'on n'a pas quelqu'un de l'entreprise des spectacles qui dit ça, c'est qu'ils n'ont pas identifié de cluster avant le couvre-feu dans les salles de spectacle. Alors évidemment, les professionnels, ils veulent pouvoir continuer à vivre, donc ils essayent de respecter toutes les conditions sanitaires, et ils les avaient respectées. Et donc, il n'est pas du tout certain que le virus se diffuse plus parce qu'il y a des salles de cinéma ou de spectacle ouvert. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement a décidé de discipliner la population en l'interdisant de se réunir, en fait. Hein. En interdisant y compris les réunions privées, en fait, hein, c'est le sens du couvre-feu, c'est-à-dire d'empêcher les gens de se voir chez soi à partir de manger ensemble, hein, à partir de noir. Donc c'est vrai que ça suscite des interrogations, c'est-à-dire qu'à la limite, peut-être qu'il aurait mieux valu un couvre-feu plus brutal, entre guillemets. Alors je sais pas, c'est une hypothèse, hein, mais qui permettent ensuite un déconfinement, un vrai déconfinement, comme le premier déconfinement, plutôt que d'être dans des demi-mesures qui font que finalement, bah, on se traîne, voilà, certaines professions qui, elles, prennent à plein, ils sont sinistrés, en fait, plein les mesures de confinement et de couvre-feu, et une épidémie, en fait, une baisse des contaminations, enfin, des contaminations qui est assez faible, finalement, hein, qui a pas vraiment l'effet, les faire chercher. Donc on est dans des demi-mesures. Et puis, il y a quand même un effet qui est un peu embêtant, c'est pour tous les gens qui sont isolés, y compris des personnes âgées, y compris des malades, y compris des personnes fragiles psychiquement, quoi, ou psychologiquement. Là, après une année pareille, avec deux couvre-feux quand même assez terribles, enfin deux confinements, quand même assez dur, plus les mesures de couvre-feu, pour ces gens-là, bah, il n'y a plus du tout de vie sociale, il y a un risque fort, fort de dépression. Et là, enfin, je pense que les hôpitaux doivent le sentir, hein, c'est-à-dire il y a vraiment des gens, déjà en temps normal, c'est pas toujours facile pour une population fragile de s'adapter, en fait, aux conditions sociales que propose la société, mais là, pour le coup, c'est... Ça va être assez. On va se réveiller avec des séquelles peut-être longues, en fait, hein, lourdes et longues, sur cette population.
Oui, tu as raison. Moi, si vous me permettez, je suis extrêmement révolté parce que j'ai vu hier. En fait, je parle pas de moi, hein, mais j'ai vu hier une personne âgée avec un déambulateur. Elle devait avoir peut-être dans les 85 ans, tu vois, à moitié courbée sur son déambulateur. Elle marchait donc avec ce truc-là dans la rue, et elle s'est fait contrôler par les flics. Et comme il n'avait pas de masque, ils lui ont mis 135 euros d'amende, quoi. Non mais attends, faut arrêter, quoi. Et attends, le plus beau, c'est que j'étais pas loin.
Elle s'est pas fait tabasser, c'est déjà bien.
Elle a eu de la chance, oui, elle a eu de la chance, elle s'est pas fait tabasser. Et le plus beau, c'est que quand le mec lui a mis l'amende, il lui a dit, c'est pour votre santé. Franchement, là, non. Alors, tu vois, il y a un truc qui me gêne dans cette histoire de confinement, c'est qu'en fait, on donne un blanc-seing à la police. Et le nombre d'injustices qui se sont produites depuis le début par les policiers, hein, d'amendes qui ne sont pas justifiées, etc. Comme j'ai vu également une autre fois dans ma propre rue, un enfant avec son père joué au ballon en plein après-midi avec les masques à 5 mètres de distance. Enfin, le père s'est fait, il a eu son amende, quoi, tu vois. Donc, il y a... Ça permet toutes les dérives en même temps, tu vois, ce genre de 135 euros d'amende par voilà, les flics font ce qu'ils veulent, en fait. Ils ont tout. En fait, c'est excuse-moi de dire ça comme ça, mais c'est un gouvernement qui donne tous les droits aux policiers. Enfin, on va dire ça comme ça entre guillemets, ou en tout cas aux administrations et aux policiers. Et la population, bah, elle ne fait que subir. Et elle n'a même pas le droit de se défendre, parce que quand elle se défend, bah, elle se retrouve en comparution immédiate. Pour outrage. Donc c'est n'importe quoi. Donc il faut que tout ça cesse, en fait, hein. Donc moi, je sais pas, je suis moi dans ce deuxième confinement, je suis vraiment, je suis presque fatigué par tout ce que je vois et tout ce que j'entends. Ça me c'est insupportable, voilà.
Oui, ça nous mine tous, c'est clair. Par ailleurs, enfin, la réponse française, hein, spécifiquement au coronavirus, c'est la répression, c'est-à-dire c'est la multiplication des amendes, oui. sachant que, attention, ces amendes sont contraventionnelles, donc il est impossible de les contester en réalité, parce que les amendes contraventionnelles, c'est le système code de la route, c'est le flic a raison, c'est-à-dire qu'il pose son amende et bah, c'est sa parole contre la nôtre, et comme c'est pas un délit, il n'y a pas d'investigation en réalité, donc le flic fait ce qu'il veut. Il peut faire un PV caniveau comme il a l'habitude de faire, c'est-à-dire le truc parce que bah, t'as pas été correct avec lui pendant le contrôle, il te met ce qu'il veut. Et après, pour démontrer le contraire, c'est impossible. Et donc, avoir choisi la voie contraventionnelle, c'est vraiment effectivement donner les pleins pouvoirs à la police pour faire ce qu'ils veulent, parce que bah, on peut pas contester leur démarche, tout simplement.
Bien sûr. Oui, tout à fait.
Je voulais revenir sur le lien entre... Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement la période entre le premier et le deuxième confinement. Pourquoi ? Parce que entre le premier et le deuxième confinement, en fait, le premier confinement a été très dur, mais globalement accepté parce qu'on avait bien compris qu'il n'y avait pas le choix. Hein, notamment dû au manquement l'absence de masque, l'absence de réactif, l'absence de lit de réanimation. Donc on avait bien vu que en une semaine, on n'avait pas le temps de pallier à tous ces manques et que le confinement était une solution. Mais ensuite, quand on a déconfiné, ça a été, on a eu un droit à un déconfinement du style « Bon, ben ça y est, c'est parti, c'est fini, vous êtes déconfiné. » Mais pas de planification du déconfinement, pas de mesures intermédiaires qui permettraient de déconfiner en sécurité, ni à ce moment-là de mise à disposition massive de tests, par exemple, ou d'organisation, surtout d'organisation du testage de la population. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est typique de ces gouvernements ultralibéraux, c'est qu'ils font une confiance aveugle au marché et par contre, ils se coupent de toute capacité de planification. J'explique. Entre le premier et le deuxième confinement, on aurait pu mettre en place de la production de masse de masques pour les rendre gratuits à la population. On ne l'a pas fait. On aurait pu se doter de notre propre capacité de production de tests et on ne l'a pas fait. Les réactifs, on les importe toujours. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une pénurie et on n'a absolument pas adressé la situation. On a fait confiance au marché pour résoudre cette pénurie. Et on a vu ce que ça a donné. Donc, et par ailleurs, on aurait pu relancer la production de respirateurs et équiper un max de lits de réanimation pour la deuxième vague, dont on savait globalement qu'elle allait venir quand même. Mais rien de tout ça n'a été fait. Au contraire, et par ailleurs, on réprime la population, mais on ne réprime ni Amazon, ni Uber Eats, ni toutes les structures qui sont en train de profiter en fait de la situation et qui en plus sont en train de faire de l'évasion fiscale en de masse à l'occasion de la numérisation de toute l'économie en fait. Et rien n'est fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le poids retombe sur les gens et les mesures qui sont prises sont des mesures. Je ne dirais pas qu'elles sont symboliques parce qu'elles ont un impact sur nous. Mais c'est une lutte symbolique contre le virus, en tout cas. C'est une lutte contre la population parce qu'elle a eu le malheur de que le virus circule dans la population. Et donc, on réprime la population, on laisse la bride sur le cou à tous les profiteurs du système. Et quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé avec toutes les palinodies autour du petit commerce, des librairies, on ne parle même pas de la culture, je suis 100% d'accord avec vous, mais le petit commerce, les librairies, on les a fermées au profit des grandes surfaces, au profit des gros distributeurs et d'Amazon. Et ça leur a posé aucun problème. Ça leur a posé aucun problème. Donc, on voit bien au service de qui ce gouvernement travaille, y compris à l'occasion d'une crise comme celle-ci. Et encore une fois, je pense que cette crise a été utilisée comme prétexte. Regardez déjà la première séquence. Conseil des ministres extraordinaire. Sur la pandémie, avant qu'elle arrive en France, enfin, alors qu'elle était en train de croître en France et que les gens commençaient à se poser des questions, mais qu'est-ce qu'il en sort, un 49-3 sur les retraites ? Non mais... Oh.
Oui.
Ouais. Si c'est pas de l'opportunisme, je sais pas ce que c'est, hein.
Ouais, je voudrais juste, si je peux permettre, hein, ne pas rester juste sur la France, parce que finalement, tu dis, oui, c'est... on voit tous les effets du libéralisme en fait avec ces crises. Ah, donc c'est vrai, mais c'est encore plus vrai par exemple en Belgique où les sénateurs de gauche là-bas, enfin les députés plutôt de gauche là-bas, en sont arrivés à la conclusion que finalement le lobby patronal avait retardé tellement le confinement qu'il était, enfin ou les mesures un peu sanitaires, qu'il était responsable de la dégradation d'une situation telle que la Belgique est le pays qui est le plus touché. En nombre d'habitants, en fait, et devant l'Angleterre et devant l'Italie. Donc, on en parle peu, mais c'est guère étonnant. C'est-à-dire qu'en Belgique, les entreprises sont toujours un peu reines. Donc, il y a très clairement, évidemment, une incapacité à gérer la crise qui ressort même du système. Du système de l'instantané dans lequel on est, hein, au sens où il y a peu de planification, il n'y a pas de mesures à long terme, il n'y a pas eu d'anticipation. Hein, je crois que c'est ce qu'a dit le rapport sénatorial hein, sur le premier confinement, un problème d'anticipation en fait de la crise pour tous les gouvernements. Mais il y a aussi le fait que qu'il y a une saisonnalité quand même du virus qui fait qu'effectivement, au moment du déconfinement en juin-juillet, les gens se sont dit, le gouvernement s'est dit, hop, c'est terminé, après tout, on ne sait rien de ce virus. Et alors que les épidémiologiques savent que pour dire qu'une épidémie est jugulée, il faut que, pour cette épidémie-là, du moins, il faut qu'il y ait 60% de la population qui soit contaminée. Donc, de fait, la contamination de la population est inévitable à un moment donné. Et donc, la question, c'est de savoir jusqu'où la retarder, jusqu'à un moment où on ait des outils pour lutter contre. Alors là, bon, voilà, c'est pas une réussite, quoi. Et alors, sur la normalisation, hein, oui, je veux dire qu'évidemment, bien sûr, hein, le gouvernement qui fait on en parlera plus tard, mais la loi sur la sécurité globale en pleine urgence sanitaire, mais c'est un scandale, quoi. Ça a échappé à personne, quoi, qui profitait de la situation de façon éhontée, quoi. Éhontée.
Eh bien, on va.
Moi, oui, juste une petite parenthèse. Moi, je me posais juste la question, peut-être que vous avez la réponse ou pas, hein, je ne sais pas. D'ailleurs, peut-être que personne ne l'a non plus. Hein. Pourquoi avoir choisi 20h et non pas 21h? Parce que si mes souvenirs sont bons, vous allez me corriger. Dans le premier confinement, il y a eu aussi il y a une première fois aussi, on a été. C'était 21h, je crois, hein, la première fois. Oui. Et là, c'est 20h. Je demande pourquoi c'est 20h et non pas 21h. Parce qu'entre 20h et 21h, il y a plus de.
Mais si, c'est pour interdire, c'est pour que c'est métro boulot dodo, c'est pour effectivement que tu ne te laisses aucune opportunité entre ton travail et ton repas, on va dire ça. En fait. Ça non, non, c'est bien sûr, c'est pour limiter, c'est pour être encore plus strict en fait sur les sorties. Voilà, la preuve, hein, on peut même pas faire notre émission.
Oui, c'est clair.
Voilà. Non mais c'était fait exprès, hein. Donc, dans le cadre de la normalisation et justement le monde du futur, il y a Charline Van Hennecker qui nous a fait un magnifique petit morceau qui s'appelle « La fille d'Hubert Noël ». Je pense que pour les connaisseurs de Dutronc, ça parlera. Voilà, à vous les studios.
J'ai commandé sur Amazon, je crois que c'était lors du Black Friday. Comme j'étais membre premium, en 24 heures on pouvait me livrer. C'était la fille d'Hubert Noël, c'est le refrain où faut conclure. La connerie est universelle, l'Hubert Noël est une ordure.
Et ben voilà, tout est dit. Donc sur la sécurité globale justement, Gilles, tu voulais me dire quelque chose?
Oui, alors... je vais en parler un petit peu. Je pense qu'à chaque nouvel attentat, tu as une nouvelle loi sécuritaire. Dans chaque manifestation, tu as de nombreuses violences policières. Alors Macron a dit à la télévision qu'il n'aimait pas ce terme et il disait que c'était pas, ça ne correspondait pas à une réalité. Or que pour moi, si, puisque la violence policière, elles sont bien là, hein, elles existent bien. Donc il faut appeler un chat, hein, on est d'accord. Alors les indignés, Nuit Debout, les Gilets jaunes hier, même les Black Blocs aujourd'hui et hier également, défendent en fait une vision, à mon avis, philosophique et politique de la gouvernance de notre cité, hein, donc de la société. C'est une manière de voir le monde, un monde plus juste, égalitaire, une façon d'être au monde aussi, autonome, libre et responsable. Donc ces gens-là, c'est l'ultra-gauche qu'on appelle l'ultra-gauche en général dans les manifestations, qu'ils se soient pacifiques ou un peu violents avec les Black Blocs, en fait, qui font, c'est simplement se révolter contre un système qui est à bout de souffle, en fait. On est d'accord là-dessus, hein, là. Donc, qu'est-ce qu'ils font les Black Blocs, justement? Ils cassent du mobilier, ils s'attaquent aux banques, les symboles d'une violence invisible qui est chacun pour soi et chacun chez soi. Ils ne tuent personne, il n'y a pas de personne physique qui est... Voilà. Alors que les policiers, eux, ils attaquent les gens physiquement, je veux dire. Hein, nous sommes d'accord. Donc, il y a effectivement des Black Blocs qui sont passés devant la justice et qui ont été jugés. Donc, ils vont certainement prendre un certain nombre de peines, une peine assez lourde, hein, puisque je crois que c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende de mémoire. Voilà. Alors, c'est quoi la loi de la sécurité globale? C'est une loi supplémentaire, hein, qui concerne en fait la possibilité de protéger les policiers contre toutes les images que pourrait faire n'importe qui, hein, dans la rue, je veux dire un citoyen lambda ou un journaliste, et qui la diffuserait sur Internet sans flouter son visage, en mettant en danger éventuellement son autorité physique et voilà, et en donnant son adresse, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a cru au départ, mais en fait, ça va plus loin que ça, en fait. Parce que l'article 24, le paragraphe 3 du chapitre 4 de la loi du 29 juillet 81 sur la liberté de la presse est complété par un article 35, et non pas 24 pour le coup ici, et qui dit « est puni d'un emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique et psychique, l'image du visage au bout d'un autre élément d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu'il s'agit dans le cadre d'une opération de police. » Voilà, ça c'est l'article 24. Bon, il a permis de prendre ça, mais c'est l'article 24. Et il y a ensuite, il dit la loi du 28 juillet 1980 sur la liberté de la presse ne font pas obstacle à la communication aux autorités administratives et judiciaires et compétentes dans le cadre des procédures que je dis, d'images et d'éléments d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un militaire de la armée nationale. Ça, je vous lis l'article de loi tel quel, hein, c'est factuel. Hein. Voilà. Alors, il y a un autre. Il y a un bruit derrière moi, c'est normal ça, le bruit là. Je parle. Non, tu. Il y a un bruit derrière là. Est-ce que tu peux. Excuse-moi, j'entends un bruit. Quelqu'un passe.
Je vais le couper, je vais le couper.
Ah d'accord, excuse-moi.
Non, c'est le ventilo derrière.
Ok. Donc c'est l'article. Lis l'article factuel. Hein. Donc l'article 35 du Code de la sécurité intérieure, il est inséré un article ainsi rédigé. Le fait qu'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale porte son arme hors service dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'Intérieur ne peut lui être opposé lors de l'accès à un établissement recevant du public. Voilà. Donc en fait, dans cet article 25, il autorise donc en plus c'est la loi sur la sécurité globale aussi insère tout ce qui est police municipale. Donc on est vraiment dans un état presque pas. Je ne dirais pas policier parce que c'est un peu exagéré, mais on autorise effectivement dans cette loi, on autorise les polices municipales et éventuellement on autorise à ces polices municipales de porter aussi une arme dans le cadre de leur fonction. Et ça va plus loin parce que pour la police nationale et la gendarmerie nationale, on autorise la police nationale et les gendarmeries nationales à porter une arme en dehors des heures de service, à l'exception d'établissements qui accueillent du public, etc. Donc c'est ce que j'ai compris de l'article. Donc c'est quand même extrêmement angoissant parce que tous les gens qui prennent des photos dans les manifestations, ce qu'on pourrait appeler les donneurs d'alerte en fait, c'est une atteinte aux donneurs d'alerte et à la profession du journalisme. À mon avis, c'est voilà. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais c'est voilà. Donc moi ça me révolte en fait. Encore une fois, ça fait 40 ans que je suis révolté. Moi, je ne vais pas m'arrêter comme ça, mais. Tu vois, donc je ne sais pas ce que vous en pensez de cet article, mais moi je considère que c'est on a le droit d'avoir, en tant que citoyen en France comme ailleurs, le droit d'avoir une position au monde, d'avoir de débattre éventuellement, de ne pas être d'accord, de se révolter, de contester, etc. Là, on tue absolument toute contestation. Alors évidemment, le confinement permet aussi de tuer la contestation pour le coup, mais. C'est vrai qu'on est là dans une surenchère de lois sécuritaires en mélangeant terrorisme, séparatisme. C'est un fourre-tout absolument global. Et ça fait très peur parce que là, c'est la démocratie qui est en danger, à mon avis, hein, franchement.
Non, mais on a l'impression que chaque crise, si tu veux, justifie en fait des mesures coercitives un peu plus dures. C'est-à-dire qu'il y a eu les gilets jaunes, alors après les gilets jaunes, ben voilà, il y a un certain nombre de lois qui sont passées, et puis le contrôle policier est devenu plus fort. Là, c'est la crise sanitaire, ah bah tiens, hop, on en remet une louche. Et alors l'argument, il y a deux choses hein, qui sont marrantes, c'est que finalement, bah, avec ces histoires de vidéosurveillance, on était tous contre la vidéosurveillance. Mais la vidéosurveillance a fini par se retourner contre les forces de l'ordre elles-mêmes. C'est-à-dire que là, on peut voir ce qu'elles font en fait régulièrement en banlieue. C'est-à-dire que là, cette affaire de Michel Zecler, ça s'est passé dans le 17e à Paris, ça a choqué les gens parce que c'est quelqu'un qui est producteur de musique, qui a pas le profil d'un délinquant. Mais là, on a vu en direct dans Paris les méthodes des policiers dans les banlieues, dans les quartiers populaires. Et les violences policières dans les quartiers populaires, elles sont quand même pas très bien documentées, c'est le moins qu'on puisse dire, par les journaux traditionnels, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas beaucoup, et pourtant, elles existent. Et pourtant, il y a énormément de procédures en cours, il y en a qui se terminent par des condamnations de la Cour européenne, d'autres, c'est rarissime, hein, par des condamnations policières, c'est très très rare. Mais enfin, il faut que tout d'un coup, pour être dans l'actualité nationale, il faut que tout d'un coup, la société entière prenne conscience de ce que les forces de l'ordre sont capables de faire à des minorités, que ce soit des sans-papiers, vous voyez, des gens qu'on ne voit pas habituellement. Et donc là, on l'a vu très clairement pendant les manifestations, avec la répression de la manifestation des Gilets jaunes, et puis on voit aussi que le comportement, moi je dirais même pas raciste, hein, c'est-à-dire de préjugés vis-à-vis de sa population, c'est-à-dire de préjugés, lui c'est un délinquant, et c'est un délinquant sur sa couleur, effectivement, sur son habillement, sur, voilà, dans le 17e, un gars qui est noir, qui a une capuche, assez louche, il est en train de préparer un mauvais coup. Grosso modo, c'est un peu ça. Oui, oui. En plus, il veut se soustraire au contrôle policier, un crime ultime, quoi. Et les mecs ont fini par faire une violation de domicile. Alors là, bravo pour eux, quoi. Et ben, ça dit énormément de choses de notre police. Oui. Et alors, je veux pas faire trop long, hein, si tu veux pas dire, mais l'argument aujourd'hui qui est utilisé pour faire passer cette loi de sécurité globale, alors, il est double, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'on protège nos policiers. Ah ben, oui, mais en même temps, puisque vous nous soumettez à un contrôle visuel, nous-mêmes avons parfaitement le droit légitime de contrôler aussi ce que font les forces de l'ordre en notre nom, quelque part. Voilà. Alors ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est finalement, il faudrait qu'on soit raccord avec les nouvelles technologies et raccord avec ce qui se fait ailleurs. C'est-à-dire, en réalité, raccord avec ce qui se fait en Chine, où on a bientôt de la reconnaissance faciale, là, on a effectivement un contrôle de masse. Et vous voyez, c'est la logique qui est à l'œuvre, c'est-à-dire qu'en fait, on durcit le contrôle vis-à-vis de la population parce que, quelque part, on a des concurrents qui sont des régimes autoritaires pour qui, là, de ce point de vue-là, il n'y a pas un problème, il n'y aura jamais un problème, que ce soit la Russie, la Chine, et que nous, ça nous pose des problèmes d'être une démocratie, finalement, dans la gestion des affaires, tout simplement.
Non, il y a une chose qui me marque, moi, au sujet de cette loi, par rapport aux précédentes lois de sécurité qui se sont enchaînées, c'est que là, vraiment, il y a un saut qualitatif. Le saut qualitatif, à mes yeux, c'est le suivant. Pour la première fois, il y a une distinction très nette qui est opérée entre le gros de la population, les gens, et les forces de l'ordre, qui mettent les forces de l'ordre dans un plan à part au niveau des droits et de la citoyenneté. Je m'explique. Dans le même projet de loi, non seulement on dit qu'il est interdit de filmer les policiers, mais on met en place, par contre, de l'autre côté, un droit absolu de la police à filmer à tout moment et à utiliser de la reconnaissance faciale et à utiliser des drones et à utiliser toutes sortes de méthodes pour saisir l'identité des gens. Et là, pour le coup, on a un truc de « la police peut vous faire ce que vous n'avez absolument pas le droit de faire ». Et là, pour le coup, on place le policier totalement en dehors du corps civique. Il est un contrôleur du corps civique, mais il n'est pas le corps civique. Il ne fait plus partie de la population. Il contrôle la population comme un corps extérieur. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Et c'est notamment plus grave que c'est une loi qui a été écrite littéralement par les syndicats de police qui veulent une immunité totale et une liberté totale pour réprimer la population. Et que donc, là, ils veulent se placer en dehors du corps civique, c'est-à-dire tout simplement comme un corps extérieur. Et on leur donne crédit là-dessus. On leur accorde ça. Et c'est ça qui est scandaleux, à mon avis, sur cette loi en particulier.
Oui, tout à fait. Pour réagir à ça, c'est en fait ce qu'on peut dire que la police est devenue un corps autonome, en quelque sorte, et elle a pris son autonomie, y compris par rapport à la sphère politique. Et pourquoi ? Parce que la sphère politique a eu besoin d'elle, et plus que jamais besoin d'elle, à la fois pour, évidemment, depuis le mouvement des Gilets jaunes, c'est évident, parce qu'elle a eu peur. Elle a eu très peur au début du mouvement des Gilets jaunes, mais globalement, elle a toujours de plus en plus besoin d'elle pour faire passer ces mesures de régression sociale, en fait, hein, quelque part. Et donc, en définitive, elle se trouve dans une logique où elle lui concède en permanence plus que ce qu'elle devrait, en fait, tout ce qu'un état de droit devrait lui permettre. Et alors souvent, il y en a qui font une distinction entre la police et la gendarmerie. Et alors la distinction, elle peut se résumer en une chose, hein, c'est qu'effectivement, les gendarmes sont des militaires. Donc effectivement, c'est paradoxal finalement hein, que de devoir plus faire confiance aux méthodes de gendarmes. Mais il y a quand même une différence, c'est que la police est là pour n'est pas là au départ pour faire régner l'ordre public. Ça peut être une de ses missions, mais sa mission prioritaire, c'est tout de même de réprimer la délinquance. On utilise la police pour faire de l'ordre public. C'est ça qui fait tant de dégâts. Or, pour les policiers, un policier normalement constitué, et pas forcément pour les gendarmes qui, eux, pourraient être chargés du maintien de l'ordre, c'est assez différent, vous êtes un délinquant potentiel. La population, c'est un peu sa fonction. Hein. Là où des services militaires classiques, vous êtes plutôt, vous êtes d'abord une population et donc vous êtes aussi dans un cadre d'une gendarmerie républicaine, vous êtes d'abord un citoyen avant d'être un délinquant. Bon, ce que je dis est à nuancer en fonction des situations, mais il y a quand même une vraie différence de corps et de philosophie et de fonctionnement du corps hein, entre les deux. Et les implications qui vont avec sont assez terribles pour les citoyens, parce qu'on l'a bien vu. Hein, vous êtes un suspect, a priori.
Oui. D'ailleurs, moi, si vous me permettez de phrase, moi, quand en fait, c'est une question de posture aussi, c'est-à-dire que quand on croise des policiers dans la rue, en tout cas, c'est mon cas, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, même si je n'ai rien à me reprocher, je me sens pas, je suis pas rassuré. Alors que quand je croise une bande de mecs qui fument un joint dans le quartier, excusez-moi de l'exprimer comme ça, mais je m'en fous, à la limite, je passe mon chemin et puis c'est tout, quoi, tu vois. Donc là, il y a une sorte de glissement. Alors, je ne sais pas si c'est un glissement sémantique dans le fait que, avant, on appelait ça les gardiens de la paix, et maintenant, c'est les forces de l'ordre, ce qui veut dire quand même que c'est quand même assez important en termes de philosophie, hein, en termes même de. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, force de l'ordre? Ça veut dire que c'est une force qui est dans la possibilité de réprimer de façon dure et définitive, tu vois. Donc, on l'a bien vu avec les gilets jaunes, avec les yeux perdus, etc., les mains arrachées, etc. Donc là, ce glissement entre gardien de la paix et force de l'ordre, la force de l'ordre, les policiers sont censés quand même maintenir dans les manifestations les dérapages, faire en sorte que ça dérape pas trop. Mais en fait, ils sont eux-mêmes à l'origine de dérapages parce que on sait fort bien tous que dans les manifestations, il y a toujours des policiers infiltrés en civil. Peut-être même chez les Black Blocs, il y en a peut-être même quelques-uns qui sont des policiers en civil aussi. Donc, personne ne sait rien sur personne et on arrive sur des dérapages absolus avec des policiers qui ont maintenant un blanc-seing absolu et total sur la façon de réprimer la population et qui s'en servent. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un abus de pouvoir, presque, je dirais pas quotidien, mais à chaque fois, les policiers ils vont à grande joie. Et moi, je suis un peu perplexe parce qu'en fait, tout ce qui correspondait à la possibilité de dénoncer les injustices, les dérapages, pas automatiquement pour les mettre pas spécialement pour mettre en danger les policiers, mais simplement pour afficher qu'effectivement il y a bien eu un dérapage, le musicien qui s'est fait tabasser dans son local. Bon, sans la vidéo, il n'aurait pas gain de cause. Hein. Donc voilà. Donc tout ça, ça me met mal à l'aise parce que je me sens dans une sorte de république un peu bananière, tu vois. Excusez-moi l'expression aussi là pour le coup, mais je suis pas rassuré. Voilà, pour l'avenir en tout cas, je suis pas rassuré parce que je pense qu'on file tout droit. Bon, on savait déjà dès le début que Macron n'était pas à gauche. Hein, on est d'accord, mais là, je sens quand même que la société va de façon très lentement, mais sûrement, vers une sorte de dureté en termes de tout ce qui concerne la loi, la façon de réprimer les populations qui sont un petit peu à la marge, comme tu parlais des délinquants, effectivement. Regarde les bacs, c'est lamentable ce qu'ils font, les bacs. Donc, il faudrait supprimer supprimer les bacs. Donc, il faut que les flics aillent faire un autre métier ailleurs dans leur domaine de compétences. Il faut arrêter ces espèces de police, pas militaire, mais ça fait un peu penser aux policiers en Amérique du Sud, tu sais, les brigadiers de la mort, là. Enfin, j'exagère un peu, mais tout ça, moi, me fait très, très peur et je ne suis pas, effectivement, pas rassuré.
Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à un point. Il faut savoir que dans la police aujourd'hui, la génération montante, c'est la génération Charlie Hebdo. C'est-à-dire que depuis 2015, la police a recruté tout un tas de gens choqués par ce qui est arrivé à Charlie Hebdo, des petits blancs énervés, voilà, faut le dire, des brutes de cours d'école, et on leur a dit « lâchez-vous ». Et la formation a baissé, la formation est de plus en plus faible, et le niveau est de plus en plus faible, et de plus en plus, en fait, ils sont encadrés par des gens qui sont déjà pas mal des fachos eux-mêmes. Et il y a une culture de la police qui est en train de changer profondément. Vous savez que Vous savez que les deux représentants de VGM ont démissionné.
Hein,
fait, oui. Noah Manoir et comment il s'appelle, Alexandre Langlois ont tous les deux démissionné de la police là, parce qu'ils peuvent plus. Voilà.
Oui, oui, et puis il s'explique qu'il y a eu un glissement quand même des missions policières. Hein. C'est-à-dire qu'à une époque, dans le code de déontologie, il était bien précisé que la police servait la République. Hein, et là, non, elle sert les intérêts nationaux. Allez comprendre, c'est un petit, comme le dit Alexandre Langlois, c'est une petite nuance, mais ça veut dire que vous êtes une police aux ordres. Et tout est fait pour que la police soit aux ordres et qu'à fortiori les lanceurs d'alerte dans la police ne se fasse pas entendre. Voilà, et apparemment, il y a quand même un certain nombre d'affaires de discrimination au sein même de la police, hein, entre populations, on dirait, voilà, d'origine étrangère et effectivement, peut-être petit blanc.
Alors, je fais une juste une petite pause bibliographie. J'ai entre les mains un livre assez intéressant qui s'appelle « Cinq mains coupées » de Sophie Divry, journaliste, qui a mis bout à bout en fait les interviews de cinq gilets jaunes qui ont perdu une main, tous la main droite, puisque c'est tous des droitiers, en essayant de ramasser ou en prenant dans la main un explosif à l'atolite. Et donc, c'est un très bon ouvrage. Alors, c'est aux éditions du Seuil, Sophie Divry en un seul mot. Cinq mains coupées. Je le recommande parce que on se met vraiment dans la tête de ceux à qui c'est arrivé et on vit soi-même, je dirais, par procuration, l'impact que ça peut avoir dans une vie de subir ce genre d'événement, quoi. Une amputation, quand même.
Oui, dans les manifs, surtout, s'il y a des gens qui nous écoutent, ne ramassez surtout pas les grenades, les explosifs, des choses comme ça. C'est la dernière des conneries à faire. Vous savez, les flics s'en sortent comme ça. Ils disent « Non, mais quel idiot aussi, celui-là, d'aller ramasser une grenade, vraiment n'importe quoi, c'est pas de notre faute. » Non, mais vraiment, ne faites jamais ça.
Alors, moi, je voulais juste, pour ma part, terminer sur le sujet de la police. Moi, j'ai comme pas mal d'entre vous, que ce soit auditeurs, auditrices, etc., participé à pas mal de manifs, hein, quand même, bien sûr. Et moi, je ne vois pas l'utilité pour un CRS ou un policier de se mettre à trois contre une jeune fille de 20 ou 25 ans pour la tirer par les cheveux, la mettre au sol. Enfin, il y a des trucs quand même qui humainement me sortent par les yeux. Je veux dire, mais est-ce que c'était utile? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen pour faire les choses? Donc cette
c'est
police,
le mal
moi,
archaïque, c'est le mal archaïque. C'est le ça. Rappel de,
moi, je veux pas de cette... voilà.
du mal dominant.
Moi, ce que je voulais dire, c'est tout à fait. Moi, ce que je suis en train de dire, Ludo, c'est et Bob, c'est en fait cette police. Moi, je n'en veux pas. Alors, je dis pas que tous les policiers sont comme ça. Bien sûr, il y a des services comme les policiers criminels. Bon, il y a plein de services différents dans la police et certains sont peut-être très utiles, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire que cette police violente, sans filtre, tout ça, moi, je n'en veux pas.
C'est une police du maintien de l'ordre. Cette police, voilà, du maintien de l'ordre.
Je veux que, tout à fait, je veux que la hiérarchie de policière, principalement le préfet Lallemand, démissionne parce que c'est, en fait, quelque part, je ne vais pas montrer au trou non plus derrière demain, hein, mais quelque part, ils participent à ce genre de choses aussi. C'est-à-dire que les policiers ne font pas les choses comme ça, ils reçoivent des ordres. Et moi, je suis contre la soumission, je veux des gens responsables, autonomes et libres aussi. Et donc, si un ordre est mal donné ou si un ordre n'est pas bon, les policiers ont un droit de réserve, ont un droit en conscience de refuser un ordre s'il n'est pas conforme au droit, tout simplement. Ouais. Parce que si on a les cheveux, une jeune fille à 3, c'est pas normal. Voilà.
Gilles, tu voulais rajouter, et je pense que ça rentre dans le cadre de la société de surveillance globale, tu voulais rajouter un point sur la surveillance des demandeurs d'emploi, et je pense que c'est tout à fait dans le sujet. Tu peux nous faire
Oui, bien sûr. Alors, en plus, c'est tout à fait récent. Hein. Je crois qu'on est, de mémoire, on est le 18 aujourd'hui. Hein, voilà. C'était mercredi, donc c'était il y a deux jours, le mercredi 16 décembre, des amendements au projet de loi des finances pouvant donner de nouveaux moyens de contrôle des chômeurs appelés, c'est très sympa comme article de loi, hein, ça s'appelle « Lutte contre la fraude sociale ». Pas mal, non? Par contre, il n'y a rien contre la fraude fiscale. Hein,
bon,
on est d'accord. Ça peut. Alors quand même, c'est quand même intéressant, c'est ce que le premier amendement déposé par les indépendants, donc c'est les indépendants qui déposent ça, accéder aux données personnelles des demandeurs d'emploi par donc relever les informations personnelles, alors que ce soit Internet, FADET de téléphone, etc. Donc, ils adressent leur demande à l'établissement à tous les établissements de crédit, aux fournisseurs d'énergie et aux opérateurs de téléphonie pour obtenir les informations. Donc, en fait, c'est le grand fichage national. Donc, de toutes les, voilà. Voilà. Et cet article, c'est l'article 73 bis de la loi, de la loi sur les finances, qui vient d'être votée le 16 décembre de cette année, bien sûr. Alors, il faut savoir que la CAF et la Sécu avaient déjà ces possibilités d'accès aux informations personnelles. Hein. Donc, apparemment, de ce que j'ai pu lire par-ci, par-là. Alors, je ne sais pas à quel, je sais pas s'ils peuvent avoir toutes les informations ou une partie. Alors, sachez quand même que vous avez... Si vous voulez lutter contre ce fichage informatique, c'est très compliqué. Mais il y a une possibilité déjà d'obtenir auprès de la CADA, donc c'est la commission d'accès aux documents administratifs, la possibilité d'obtenir les documents qui nous concernent, bien sûr, que ce soit de n'importe quel ministère, impôts, police, etc., et de faire des demandes pour obtenir les informations qu'ils ont recueillies sur vous. Normalement, vous pouvez avoir droit à ce genre de choses. À l'exception tout de même de tout ce qui touche à la sécurité nationale, évidemment.
Et à l'intégrité des personnes. Et aux fichiers voilà. Edwige, par exemple. Alors.
Exactement, ouais. Tout à fait. Exact. Voilà. Donc, tu vois, ça rentre quand même, effectivement, dans de la grande surveillance. En 1984, hein, on est dans Orwell, il n'y a pas de souci. Hein.
Bon, bah, alors moi, après une petite pause musicale, j'ai une bonne nouvelle pour le même mercredi 16 que je vous raconterai. Il s'agit d'une plainte déposée et je vous en parlerai après la pause musicale qui, pour rester dans le sujet, est un petit morceau des Goguettes en Trio et qui s'appelle « Il tape sur beaucoup de gens ». Vous allez voir qu'on est en plein dedans.
C'est un flic qui n'a pas le moral, il a bien dit ceci. Tant de mois qu'il se donne du mal et qu'il en fait aussi. Il en envoie du monde à l'hosto, il fait bien son boulot. La 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 la. Malheureusement des flics, il y en a aussi des biens.
Excellent.
Bravo.
Excellent.
Excellent, excellent.
Très bon.
Alors, je disais qu'il y avait quand même quelques bonnes nouvelles dans cet océan de misère. Le 16, mercredi 16, il n'y a pas eu que le passage donc, de cet amendement tout à fait tragique dont tu viens de nous parler, Gilles. Il y a eu aussi une initiative juridique de la part d'un syndicat qu'on connaît, puisqu'ils sont, ils sont venus chez nous à Secret de Fabrication lors de la dernière émission. C'est la CGT HPE, la CGT Hôtel de Prestige et Économique. Notamment qui, évidemment, dont le plus gros fait d'armes en ce moment est la grève qui dure maintenant depuis 14 mois de Ibis Batignolles, dont on a reçu donc Rachel, porte-parole des grévistes, lors de la dernière mission. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont déposé une plainte avec leur avocat, Slim Benachour, cette fois-ci directement contre Accor. Puisque visiblement les plaintes contre la société sous-traitante STN n'aboutissent pas parce que à cause de la protection dont bénéficie, on verra, la sous-traitance en général dans le système juridique, mais ils attaquent sur un angle différent qui est l'angle de la discrimination. En effet, il semblerait que les politiques de recrutement de la main-d'œuvre soient très particulières, vu que ce sont chez les sous-traitants qu'on trouve les femmes racisées, qui sont victimes d'un traitement différencié par rapport aux employés directs d'Accor, en termes de formation, en termes de charge de travail, en termes de paye. Et que donc, on a bien deux niveaux de main-d'œuvre différentes. Alors, là aussi, encore un petit point bibliographie. Je crois que c'est Ludo qui m'a signalé le court-métrage Les Invisibles sur France 2, non, c'est Claude. Les Invisibles, qui est également sur le site de Mediapart, un court-métrage d'information sur justement ces salariés sous-traités du nettoyage qu'on ne voit jamais, mais qui ont un rôle essentiel. Pas seulement dans les hôtels d'ailleurs, qui nettoient aussi les lieux de travail, les bureaux, tout ce genre de choses, et donc qu'on ne voit pas et qui pourtant jouent un rôle essentiel. Donc ce reportage, je souligne aussi un ouvrage qui a été publié par la CNTSO, qu'on a aussi reçu dans l'émission, hein, donc sur d'autres grèves. La CNTSO qui est un autre des syndicats combatifs du nettoyage, hein, et il n'y en a pas beaucoup, donc il faut le noter, qui a travaillé avec une association qui s'appelle REACT, et qui fait de l'animation sociale, en fait, du community organizing, pour être précis. Et ils ont croisé leurs méthodes dans la région lyonnaise pour aboutir à une structuration forte et une syndicalisation et une organisation des travailleuses et des travailleurs du nettoyage dans les secteurs sous-traités. Et donc ça, c'est un livre très intéressant parce que c'est un livre de pratiques militantes, c'est-à-dire comment on met en place un collectif militant qui soit capable de suivre des précaires et de leur assurer une organisation correcte. Donc ça aussi, encore une note d'espoir. Heureusement, ça bouge dans le mouvement syndical, dans le mouvement social, du côté des sans-papiers, avec les grèves, avec les manifestations de la liberté, les marches de la liberté de samedi. On voit qu'il y a quand même du répondant du côté du mouvement social. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Alors, plus spécifiquement, alors je vais revenir, je vais faire un petit topo rapide sur qu'est-ce que c'est que le marchandage, parce que je pense que c'est un point crucial aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui. Alors, le marchandage, c'est un premier délit du travail réprimé. La loi interdisant le marchandage date de 1848, Deuxième République, dite la tentative de République sociale. Et pourquoi c'était extrêmement important à l'époque? Il faut savoir qu'est-ce que c'est que le marchandage. C'est le fait pour un employeur de n'être que pourvoyeur de main-d'œuvre, d'être un espèce de capot. L'employeur devient un espèce de capot qui fournit de la main-d'œuvre à un patron tiers. Il regroupe des équipes et il devient le chef de l'équipe intermédiaire, on va dire, entre les salariés en fait et le donneur d'ordre final. Et à l'époque, en 1848, c'était extrêmement répandu. Il y avait ce qu'on appelait le gangmastering en anglais, c'est-à-dire des chefs de bande qui en fait amenaient leur main-d'œuvre pour des sous-traitants et se payaient au passage. Et évidemment, le mouvement ouvrier avait ça en horreur parce que le minimum qu'on puisse demander quand on est un salarié, c'est d'avoir un lien direct avec son employeur et pas d'avoir un intermédiaire qui se sucre au passage juste pour le fait de placer la main-d'œuvre. Et donc, de 1848 jusqu'en 1974, donc on a plus d'un siècle, le placement onéreux, le marchandage était interdit. Ce n'est qu'à la contre-offensive néolibérale des années 70 qu'on a réintroduit l'intérim, qu'on a généralisé l'externalisation et la sous-traitance, et qu'en fait, par la bande, on a réintroduit en fait le marchandage qui devient un principe général d'organisation aujourd'hui. Voilà. Et c'est pour ça que j'attire l'attention donc, sur la lutte de syndicats comme la CGT-HPE, qui sont en première ligne sur cette question, parce que en fait, leur revendication, c'est la réintégration des salariés dans Accor, et pas à travers des niveaux de sous-traitance X ou Y, qui en fait les sucrent et les plument, les privent de primes et les privent, les privent du salaire égal auquel elles ont droit pour un travail égal. Voilà. Donc, vos réactions ?
Oui, non, c'est vraiment essentiel de mettre en évidence hein, ce parallèle avec une loi qui date de 1848, c'est-à-dire les premières lois sociales. Vous dire un peu la régression, le niveau de régression sociale auquel on attend. La sous-traitance, ça fait quand même 20 ans, plus de 20 ans qu'on dénonce ces effets, notamment dans les secteurs qui sont les plus les gens sont les plus bas qui ont la plus basse qualification en fait hein.
C'est-à-dire que le BTP principalement
le BTP non pas seulement l'hôtellerie et évidemment les bars enfin tout ce qui est pourvoyeur à la fois de main d'œuvre mais en même temps de main d'œuvre peu qualifiée. C'est-à-dire qu'on peut de temps à autre comprendre qu'il y ait des métiers et encore hein, qu'il y ait des métiers si vous voulez créatifs, ce qu'on appelle la classe créative, qui soit peut-être plus ou moins, on va dire, parfois qui travaillent à la mission, qui soit plus ou moins précarisés. Sauf que pour ces gens-là, on a quand même trouvé pendant une période des moyens de limiter la part de précarité. Hein, je pense aux intermittents du spectacle. On a quand même pris conscience que leur travail faisait que il fallait. On a une main d'œuvre qui est la moins bien payée, la moins bien qualifiée, et c'est celle qui est la plus précarisée. Donc ça, comme l'open prolétariat, J'aime pas ce terme, mais on fait pas mieux. On est en train de revenir à. On a créé un lumpen prolétariat qu'on exploite comme on l'entend. Et c'est simplement scandaleux. C'est ces gens-là qui devraient bénéficier d'aide conséquente pour leur permettre d'avoir une vie digne, voilà, et d'avoir une continuité d'emploi et de revenus, ou surtout au moins de revenus, quoi. Voilà, mais bon.
Moi, je voudrais juste dire un mot sur ce sujet. C'est un sujet que je connais pas spécialement plus que d'autres. Je sais que c'est les gens les plus démunis en termes salarial sont effectivement les intérimaires, hein, puis les gens qui sont sur des CDD multiples, qui changent de CDD tous les trois semaines ou un mois. C'est vrai que ce sont des gens. C'est vrai qu'on a recréé une sorte d'esclavagisme moderne. Avec une différence, c'est que maintenant, c'est une soumission absolue à l'autorité, non ? C'est-à-dire que non seulement tu es esclave parce que tu es en intérimaire ou CDD, mais en plus, si tu, pendant ton CDD ou ton intérim, tu oses contredire ou ne pas être d'accord avec un ordre qui t'est donné par ton patron, bah, tu es simplement licencié, sans faire, voilà, de façon très, 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 très arrêté, sans possibilité de revenir sur le sujet. Et donc là, on est quand même, c'est d'ailleurs effectivement, Ludo l'a très bien dit, ça fait quand même des années que nous essayons de donner la parole à des gens qui sont victimes de ce genre de situation, qui n'ont d'ailleurs effectivement jamais la parole pour le coup, et qui ne sont pas très bien défendus au niveau des avocats. Alors bien sûr, il y a les inspecteurs du travail qui font le mieux qu'ils peuvent pour les défendre, mais ça ne suit pas toujours en fait, hein. Donc on est souvent dans des situations où non seulement les gens sont déjà précaires, mais en plus, ils sont encore plus précarisés par la suite parce qu'ils n'ont même pas la possibilité de ne pas être d'accord avec une autorité administrative ou autre. Donc, c'est ce que j'appellerais, moi, une sorte d'esclavagisme. Et c'est absolument insupportable, effectivement. Donc, ces gens-là sont toujours bienvenus sur notre radio, évidemment. Donc, moi, je sais pas quoi dire. Moi, toutes ces choses me quelque part me fatigue, excuse-moi de dire ça, mais ça me fatigue, mais en même temps, il est absolument primordial et nécessaire de continuer la lutte et le combat parce que il n'y a pas d'autre choix. C'est ça ou mourir. Hein. Donc, il faut absolument que ces gens-là sortent la tête de l'eau. Et évidemment, si nous avons la possibilité de les aider, ben on le fera, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur le sujet. Je suis désolé, mais.
De toute évidence, on va réinviter, si la grève Ibis dure, je pense qu'on peut se permettre de les réinviter, bien entendu, à l'émission, hein, parce que c'est un sujet sur lequel nous, on essaie d'être en pointe, on essaie de soutenir ce genre de mouvement. Alors juste, j'ai oublié de vous donner le titre de l'ouvrage CNTSO plus React, ça s'appelle « Balayons les injustices », hein, c'est par rapport au sujet, voilà. Donc on peut le trouver, on peut trouver les références sur Internet. Balayons les injustices, donc CNT, Solidarité Ouvrière, et REACT, association donc de Community Organizing. Juste pour conclure, je dirais que de toutes les manières, on est en train de vivre dans une illusion qui est de faire passer pour des progrès et des entrées dans le 21e siècle, ce qui constitue en fait des régressions vers le 19e. Et on a la même logique derrière cette logique de sous-traitance et de marchandisation à outrance, et la logique de considérer l'ensemble des classes populaires comme des classes dangereuses. Ça aussi, c'est un retour au 19e siècle. Et les méthodes qui sont employées pour les réprimer, c'est typiquement, c'est la maréchaussée de la fin du 19e siècle, c'est le livret ouvrier du milieu du 19e siècle. Notamment l'accès à toutes les données personnelles pour les demandeurs d'emploi, c'est un livret ouvrier, c'est un livret ouvrier 2.0, mais c'est un livret ouvrier quand même. Donc on voit bien qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil en fait, et ils sont en train d'essayer de faire passer des mesures totalement régressives de retour au 19e siècle pour le nec plus ultra de la modernité. Et ça, c'est un truc qu'il nous faut continuer à dénoncer en permanence parce que c'est absolument scandaleux. Voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus, les camarades.
Oui. Nous sommes d'accord.
Nous sommes d'accord.
On sera toujours sur le pont pour la défense. Voilà.
Bonne fête.
Salut à tous.
The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields where they lay a-keepin' their sheep,
on a cold winter's night. That was the